Bonsoir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé la publication imminente du gouvernement Souminois 2. Il a dit samedi 2 août 2025, lors d'une réunion qu'il a tenue avec les membres du présidium de l'Union sacrée de la nation, sa famille politique. Il a souligné que cette nouvelle équipe gouvernementale sera resserrée, ouverte à l'opposition et à la société civile. Cependant, au sein de l'opinion, les avis divergent. Certains Congolais estiment que le gouvernement Souminois 2 n'apportera aucun changement sur le plan socio-économique en cette période où la RDC traverse des vives tensions sociales, économiques, sécuritaires et politiques. D'autres, en revanche, pensent que c'est l'espoir d'une nouvelle dynamique face aux crises qui secouent le pays. Qu'est-ce que vous, auditeurs de Radio Capi, vous en pensez? Nous recevons dans ce débat Joseph Nkoy, il est député national et cadre du parti politique ADP de Christophe Lutundula, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Il est aussi vice-président en charge des questions diplomatiques du réseau des jeunes parlementaires congolais. Joseph Nkoy, bonsoir.
Bonsoir Madame le Président, bonsoir à tous les
On a du mal à vous suivre, Joseph Nkoy. Essayez de bouger pour améliorer la qualité de la ligne, ou si vous avez activé le mode main libre, essayez de le désactiver. Rodrigue Ramazani est aussi avec nous dans ce débat. Il est avocat, secrétaire général d'Envol, parti politique de l'opposition, dont l'initiateur est Délice Sanga. Rodrigue Ramazani, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir aux nombreux auditeurs de votre radio.
Avec moi dans ce studio, Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Christian Moleka, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Capi.
À Matadi au Congo central, vous nous suivez sur la sonde 2.0 et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre en direct cette émission sur la page Facebook, le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
La formation imminente du gouvernement Souminois 2, ouvert à l'opposition et à la société civile, a été annoncée par le président de la République, Félix Tshisekedi, lors d'une réunion avec les membres de sa plateforme politique, l'Union sacrée de la nation, samedi 2 août dernier. Cependant, dans l'opinion, un débat est lancé sur l'opportunité ou pas de la mise en place du gouvernement ou du nouveau gouvernement. Enoch Katumbi nous en dit plus.
Samedi 2 août, le président Félix Tshisekedi a confirmé la publication imminente d'un nouveau gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminois, qui l'a reconduite à son poste. Lors d'une réunion avec l'Union sacrée de la nation, sa plateforme politique, le chef de l'État a évoqué la cohésion au sein de sa famille politique et l'unité nationale. Mais le point le plus attendu était sans aucun doute la composition du prochain exécutif. Félix Tshisekedi a annoncé un gouvernement resserré de moins de 50 membres qui fera de la place à des représentants de l'opposition et de la société civile. Cette annonce suscite déjà des vifs débats dans l'opinion publique. Pour certains, cette nouvelle équipe est accueillie avec scepticisme. Ils craignent un manque de changement et des ruptures avec les politiques passées, jugeant que le gouvernement Souminois 2 s'inscrit dans une logique de la répétition, déconnecté des réalités et du vécu quotidien des Congolais. Ces critiques appellent à un dialogue national inclusif pour trouver les véritables solutions aux problèmes du pays. À l'inverse, d'autres observateurs voient dans cette décision une lueur d'espoir. Ils estiment que la reconduction de Judith Suminois et la promesse d'un exécutif plus réduit témoignent d'une volonté du président Tshisekedi d'insuffler un nouvel élan avant la fin de son second mandat. Pour eux, ce gouvernement pourrait être la bonne formule pour relever les défis actuels.
Merci Enoch Katumbi. Joseph Nkoy, je rappelle que vous êtes député national, cadre du parti politique ADP de Christophe Lutundula, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Vous êtes également vice-président en charge des questions diplomatiques au sein du réseau des jeunes parlementaires congolais. Je l'ai dit dans le sommaire, publication imminente du gouvernement Souminois 2, c'est-à-dire la première ministre sera reconduite. Le président de la République a annoncé que ce nouveau gouvernement comptera moins de 50 membres. Il sera ouvert à l'opposition et à la société civile. Comment vous avez accueilli cette annonce du président de la République?
J'ai appris cette nouvelle annoncée par M. le Président de la République pour essayer de reconfigurer l'équipe gouvernementale au regard d'un certain nombre de défis en face desquels notre pays se trouve. Je pense ici que le Président de la République, comme le premier citoyen du pays,
Joseph Kony, s'il vous plaît, est-ce que vous avez activé le mot de main libre?
Non.
Si vous pouvez, vous pouvez parler un peu plus fort parce que votre volume est trop bas.
Oh, d'accord. Je disais, Madame Kony, que c'est le président de la République qui est le premier citoyen de la République. C'est à lui que revient la charge d'apprécier l'opportunité de la redynamisation ou de la reconfiguration de l'équipe gouvernementale en tenant compte justement d'un certain nombre de défis à face desquels se trouve la République démocratique du Congo à ces jours. L'opportunité de cette reconfiguration, à mon avis, est tout à fait louable, si je peux dire comme ça. À ceux qui pensent que redynamiser actuellement l'équipe gouvernementale serait inopportun. Je pense que c'est un jugement qui paraît raisonnablement ou rationnellement moins défendable. Nous avons une situation très critique, une situation sécuritaire, et à part ces défis-là, vous l'avez relevé, il y a des tensions sur les plans économiques, sur les plans sociaux. Si le président de la République estime, au regard de tous ces défis, de pouvoir resserrer l'équipe gouvernementale, je ne pense pas que cela puisse déranger. Je dois rappeler ici que l'option de dialoguer n'est pas exclue. Mais encore qu'il faut voir les conditions de ce dialogue pour que les cadres à mettre pour justement parvenir à aplanir toutes les divergences dans toute sincérité soient établies. Et donc, à l'heure actuelle, au regard des défis auxquels notre pays est confronté, le président de la République a toute raison de pouvoir réfléchir sur la redynamisation de l'équipe gouvernementale. Évidemment, il y a certaines personnes, je veux dire comme ça, qui peut-être ne prennent pas la conscience de la responsabilité qui est la leur, justement, et, lorsqu'on regarde la situation du pays comme elle se présente. Et donc, le président de la République a toute la raison de pouvoir réfléchir sur la redynamisation de l'équipe. Alors, ne peut pas, à mon avis, interdire au président de la République, à qui revient toute la responsabilité de l'organisation des institutions, de la stabilité du pays, de la stabilité des institutions, de pouvoir réfléchir sur une idée ou une ou telle autre idée. Évidemment, l'opposition est en droit de pouvoir dire que cela n'apporterait presque rien, parce que nous sommes en démocratie, c'est ça le travail de l'opposition.
Il n'y a pas que l'opposition qui le dit, hein. Il y a aussi une frange de la société civile et même une frange de la population. Et certains Congolais craignent que ce nouveau gouvernement ne soit qu'un simple remaniement sans véritable changement. Que répondez-vous à ces critiques?
Non. Bon, vous savez, Je comprends ces sentiments-là qui animent tous les Congolais, parce qu'en fait, nous avons assisté à plusieurs équipes gouvernementales, pas seulement avec le président Tshisekedi, mais avec plusieurs autres, avec ses prédécesseurs, qui n'ont pas donné grand-chose, qui n'ont pas répondu aux attentes de la population. Mais que c'est passé, donc ce précédent ne puisse pas être perçu comme un obstacle ou un élément qui nous pousse à avoir toujours un jugement pessimiste sur la manière de fonctionner des institutions. Évidemment, il y a cette peur-là, mais il y a lieu de pouvoir rassurer la population que le fait pour le président de la République de réfléchir dans le sens de prendre d'autres citoyens de l'opposition, parce qu'il a dit, de l'opposition, de la société civile, pour apporter un plus dans le sens de répondre aux attentes de la population. Je ne pense pas que cela soit mal perçu ou soit logiquement mal perçu.
Merci.
En fait, ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a, il faut dire, il y a une nécessité que l'on puisse dialoguer. Mais que ce dialogue-là ne soit pas perçu comme un élément sans lequel les institutions de la République ne peuvent plus fonctionner, les présidents de la République ne peuvent plus réfléchir par rapport aux objectifs républicains, par rapport aux besoins de la population. Voyez.
Alors, est-ce qu'on peut dire que ce gouvernement,
et nous espérons que avec la rigueur, avec le sens des responsabilités, et Madame la Première ministre qui est reconduite et tous les autres membres du gouvernement qui seront nommés, qui est la République démocratique du Congo, puissent véritablement se mettre sur la voie de son développement à tous les moins.
Est-ce que Joseph Kony, est-ce que ce nouveau gouvernement le gouvernement Souminwa II, est le fruit des consultations faites par Monsieur Eberhand?
En tout cas, Madame Kelly, je ne saurais pas répondre par l'affirmative parce que je ne suis pas dans la cuisine du président de la République. Évidemment, lorsque nous verrons, après la publication de l'ordonnance présidentielle, que nous allons faire des analyses pour voir qui est sorti d'où, qui est de l'opposition, de la majorité, ça c'est au moment que nous saurons que l'équipe mise en place est justement la conséquence des consultations initiées.
Merci.
À ce moment, nous ne pouvons pas émettre un avis sur ça.
Rodrigue Ramazani, vous êtes avocat, secrétaire général d'Envol, parti politique de l'opposition, dont l'initiateur est Déli Sesanga, plutôt Félix Tshisekedi, propose d'inclure l'opposition dans son nouveau gouvernement. Quelle est votre réaction à cette proposition? Est-ce que vous pensez que c'est une main tendue, sincère du président de la République, ou c'est une tentative de diviser l'opposition?
Merci beaucoup, Madame Kelly, pour votre question. Je tiens d'entrée de jeu à rassurer mon... Personne n'a refusé le fait que M. Tshisekedi, président de la République, a le droit de la Constitution lui reconnaît le droit de remanier le gouvernement, de changer le membre du gouvernement, comme cela a été créé. Mais généralement, au Congo, c'est ça le problème, en écoutant la réflexion de la majorité, on passe le temps dans des périphrases, on passe le temps à des réflexions à côté, sans pourtant attaquer la vraie question. Et c'est ça la réaction de l'Union sacrée, ça ne m'étonne pas. La question ici, nous nous posons la question de savoir, est-ce que le problème du Congo, en réalité c'est ça, est-ce que le problème du Congo, c'est un problème de casting,
casting
gouvernemental?
On a du mal à vous suivre, Rodrigue Ramazani. Essayez de vous déplacer, de bouger pour améliorer la qualité de la ligne.
Allô?
Allô?
Est-ce que vous me suivez, madame?
Très bien, allez-y.
Merci. Donc, la question est de savoir, est-ce que le problème, la crise multiforme que nous vivons aujourd'hui, c'est a pour cause la défaillance du casting gouvernemental? C'est ça la question. Il faudrait pas aller dans de périphrases, contourner le problème. Le problème du Congo
est le fait de connaître aujourd'hui une crise multiforme. Il s'agit d'une crise des légitimités, une crise sécuritaire, une crise de gouvernance et une crise de confiance des institutions et le peuple. Écoutez, des fois on oublie rapidement une histoire récente. Je rappelle quand même que depuis 2019, nous avons connu un président de la République élu sur base d'un deal qu'on appelait à l'époque compromis à l'africaine. Et en 2023, le président actuel s'est maintenu au pouvoir après un coup d'état électoral, des élections qu'on a connues pendant 7 jours. Les assemblées là, nationales, provinciales, l'Assemblée nationale et les assemblées provinciales, nous avons des députés issus d'une élection chaotique qui s'est promenée avec des machines à voter. Dans nos institutions, nous avons des élus, des tricheurs. Certains même ont été nommés ou cooptés selon le membre d'un parti politique de la majorité, du reste à la 10e unité. Les sénateurs, ils sont sortis d'une élection où le plus au fond a gagné. C'était une bourse de valeur. Donc nous avons des sénateurs qui ont corrompu pour être élus. Et comme si ça ne suffisait pas. Au-delà de cette crise de légitimité des institutions, nous avons une crise sociétale. Regardez la misère, la faillite dans la conduite politique publique de l'État. La vie est invivable. La sécurité du pays. Nous avons une partie du pays qui est occupée. Ça fait plus de 2 ans que cette partie de notre territoire est occupée et l'option militaire levée par le gouvernement a échoué. Raison pour laquelle il se retrouve à Doha et à Washington. Et à l'interne, nous connaissons des situations de violation grave des droits de l'homme. L'envol en paye les prix. Il y a un jeune Merdi Manzengu qui, à cause de ses opinions, l'actuel ministre de Justice intérimaire a décidé de lui rendre la vie misérable jusqu'à l'incarcérer en prison pendant 2 mois en violation de toutes les procédures, simplement parce que c'est un adversaire politique dans le quartier Kanluka. Il faut le réduire au silence. Et je ne parle pas des opposants qui sont en exil, forcés de vivre en exil. Et les journalistes aussi, vos confrères, ils sont en exil. Et là, aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il suffit pour M. Tshisekedi de signer une ordonnance de soirée et paf, avec une baguette magique qui a la solution au problème. C'est faux. L'envol ne s'inscrit pas dans ça. Parce que votre question est de savoir si ce gouvernement d'ouverture permettra aux opposants d'y accéder. Oui, nous connaissons la logique politique congolaise. Beaucoup vont se battre pour aller résoudre des équations personnelles et non la situation dramatique du pays. Comment allons-nous résoudre cette crise multiforme? Encore que Doha, jusqu'à aujourd'hui, nous attendons à la mise en place des garanties devant ce qu'ils ont demandé. Et jusqu'à aujourd'hui, ni le gouvernement, ni les 23 personnes n'osent avancer pour faire avancer les discussions.
Mais Rodrigue Amazal, et peut-être qu'avec la nouvelle équipe, les choses pourraient changer. C'est peut-être l'espoir d'une nouvelle dynamique face aux crises qui secouent le pays.
Allô, Madame Kelly, je ne vous ai pas reçu là.
Alors, je disais, la mise en place du gouvernement Souminois 2, allô, vous m'entendez là? Rodrigue Amazal, est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous suis très bien. Vous n'avez pas de retour.
Est-ce que vous me recevez? Allô?
Je vous reçois 5 sur 5. Est-ce que vous m'entendez, Rodrigue? Alors, on va essayer de vous rappeler. Allô? La réalisation va essayer de vous rappeler. On a un petit souci avec votre ligne téléphonique. Christian Moleka, vous êtes analyste politique, coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Qu'est-ce que vous pensez de l'annonce faite par le chef de l'État, gouvernement avec moins de 50 membres ouverts à l'opposition, à la société civile, qui pourrait peut-être faire face aux crises actuelles qui secouent le pays.
Je pense que cette option du président est d'abord une carte politique, une carte politique qui vise prioritairement à gagner le temps. Vous êtes dans un environnement où des voix s'élèvent de plus en plus pour parler d'un processus de dialogue en interne. Et la meilleure façon de gérer l'agenda, c'est de gérer le temps et donc de repousser le dialogue en mettant premièrement un gouvernement qui permettra de rassembler une partie de l'opposition, société civile et pourquoi pas de, de rééquilibrer les rapports de force au sein de la famille politique après la restructuration de l'Union sacrée. Ce qui lui permet de repousser en 2026 un processus de dialogue et dans un contexte où il aura probablement achevé Doha, probablement achevé Washington et qu'il serait revenu suffisamment avec des éléments de force pour négocier en position de force. Je crois que c'est d'abord un gouvernement qui lui permet de gagner des marges de temps parce que ça va repousser dans un délai plus ou moins à moyen terme l'horizon d'un dialogue et d'un nouveau processus politique. Ça lui permet également en même temps de lancer un signal à l'international. Il y a de plus en plus de voix internationales qui appellent également à une cohésion interne. Et donc, en lançant ce gouvernement de cohésion avec une ouverture, il lance également un signal à l'international qu'il a assoupli quelque peu son gouvernement dans un contexte où il y a également cette pression internationale sur la cohésion.
Alors, le fait d'intégrer l'opposition et la société civile dans le prochain gouvernement, est-ce que vous pensez que c'est un atout ou ça pourrait créer des conflits ou des tensions internes?
Déjà, ça va créer des tensions au niveau de sa famille politique. Parce que quand vous avez un gouvernement resserré, c'est-à-dire moins de 50, et que dans ce resserrement, vous allez à nouveau couper le gâteau, puisqu'il faut le dire ainsi, pour donner à la société civile et l'opposition, ça veut dire qu'il y aura moins de postes pour sa propre famille politique. Quand on sait toutes les tensions qu'il y a eu après le premier gouvernement sous Minois, quand on sait toutes les tensions qu'il y a autour de la restructuration de l'Union sacrée par Mbata, il est très probable qu'on ait beaucoup de frictions au sein de sa famille politique. Et ce n'est pas pour rien que le président a réuni samedi l'Union sacrée pour tenter déjà de calmer la frilosité qui se ressent au sein de sa famille politique. Deuxièmement, ça va quelque peu fragiliser une partie de l'opposition, parce que si une partie de l'opposition a rejoint le gouvernement, et je pense notamment au parti ayant pignon, le CID de Fayoulou, le PPRD ou Envol, ça va couper l'opposition qui va passer son temps à se battre entre elles. Donc il y aura une partie de l'opposition qui va se combattre, l'opposition qui restera dehors, et ça va pouvoir conforter encore le président qui aura divisé l'opposition. Et peut-être troisièmement, c'est que dans un contexte où l'enjeu le plus important pour le pouvoir aujourd'hui, c'est de régler la dimension régionale et internationale du conflit, ça lui donnera quelques répits en interne en ayant donné une solution à mi-parcours à une opposition qui davantage va se fragiliser. Donc je crois que c'est sur ça qu'il joue, gagner le temps, fragiliser l'opposition, redonner un peu de sens dans sa famille politique, donner une réponse à l'international à une forme d'ouverture, quitte à finir l'agenda international avant de revenir l'année prochaine aux dynamiques internes.
Alors, il y a une certaine opinion qui pense que le gouvernement Souminois 2 est une répétition du passé. Excusez-moi, cette tranche de l'opinion qui pense d'ailleurs que Judith Suminois a un bilan négatif, le fait de la reconduire, ça sera une répétition du passé. Du point de vue analytique, pensez-vous que ce gouvernement a le potentiel d'impulser une nouvelle dynamique comme l'espèrent d'autres?
Je crois que nous l'avons déjà dit plus d'une fois sur vos plateaux, c'est que vous aviez un gouvernement qui avait des prétentions énormes en termes économiques, 6 millions d'emplois l'an, un budget pratiquement multiplié fois 4, et qui a été très vite rattrapé par la question sécuritaire. Aujourd'hui, la priorité pour le gouvernement, c'est parler de sécurité, c'est parler d'intégrité territoriale. Et donc, les questions de développement ont pratiquement été remises au second plan, avec un budget difficilement mobilisable, avec des recettes qui sont en perte. Quand vous perdez le contrôle des zones comme Goma et le Grand Nord, quand vous connaissez la capacité de cette région à contribuer dans le budget, c'est un gouvernement qui perd une grosse partie des recettes nationales. Et donc, dans ce contexte-là, et avec une coordination qui a plus le temps été tout le temps chahutée, on a vu les tensions entre les comportements d'un Mutamba, vous avez la Première ministre, vous avez des problèmes de coordination également, qui fait qu'on n'a pas eu à la fois une action très coordonnée, mais également des résultats très positifs tenant compte des priorités qui ont évolué. Après, vous avez un président de la République qui est surmédiatisé, qui est dans l'hyperprésidence et qui ne permet pas à sa première ministre d'avoir de l'espace, parce que vous avez un président qui occupe totalement l'espace. Dans ce contexte-là, Assoumis Noir 1 ne pouvait pas donner des résultats assez évidents. Maintenant, est-ce qu'une équipe 2 changerait totalement la donne? Est-ce que nous aurons des capacités sécuritaires plutôt une tension sécuritaire qui aura baissé et qui permettra au gouvernement de se reconcentrer sur le développement et l'économique. Est-ce que vous aurez un président qui laisserait suffisamment d'espace à son gouvernement et qui reculerait quelque peu? Est-ce que vous aurez une coordination améliorée avec un gouvernement qui donnerait beaucoup plus d'efficacité dans la communication? Ce sont des questions qui n'ont pas de réponse à ce stade. On verra si à la sortie du gouvernement, vous aurez cette amélioration-là. Et puis peut-être, vous avez un gouvernement qui peut connaître l'entrée des chefs de parti, d'autres chefs de parti. Si Soumino 1 avait commencé avec des promesses de resserrement, Soumino 1 a donné un gouvernement large. On nous a parlé au début de gouvernement technicienne, plutôt les techniciens et rétrécis, on n'a pas pu l'avoir. Tenant compte de la réalité politique, il est très probable également qu'aujourd'hui, malgré la promesse du président, on ait un gouvernement qui peut rester plus ou moins, je dirais, éléphantesque. Et qui sera dominé par des chefs de parti. Et quand vous avez un gouvernement des chefs de parti, eh bien, vous n'aurez pas une coordination efficace.
Alors, il y a Peter KMB qui nous suit depuis Mbujimayi. À mon avis, ce gouvernement Soumino 2 ne fera presque rien de plus que Soumino 1, car le premier signe qu'il annonce est sa taille qui est plus ou moins de 45 ministres. Ceci prouve que le chef de l'État est plus préoccupé par la satisfaction des frustrations de ses partenaires que par le social du peuple congolais. Nous aurions souhaité que ce gouvernement ait moins de 40 membres.
Bref, rien de sûr. Difficile quand vous avez une majorité aussi large, avec presque 470 députés, autant des partis politiques, un présidium à 40. Donc quand vous avez déjà un présidium à 40, comment pensez-vous avoir un gouvernement rétréci? Vous ne saurez pas avoir un gouvernement rétréci. C'est-à-dire que c'est sans l'État lié à notre système partisan.
Il faut satisfaire tout le monde,
trouver des jeux d'équilibre entre les alliés. Et comme tout le monde pense récompenser au gouvernement, donc vous aurez toujours des gouvernements de cette taille-là, c'est difficile.
On va ouvrir notre standard pour prendre ces auditeurs qui sont en ligne, qui veulent donner leurs avis sur le thème de ce soir, direction Bandundu, où on va écouter cet auditeur qui est déjà en ligne.
Jean Mokwango, depuis la ville de Bandundu, dans la province de Kwilu. À mon humble avis, le gouvernement Soumino 2, tel qu'annoncé, a moins de chances de réussir parce que c'est le même système qui continue depuis le premier mandat du président Tshisekedi. Moi, je pense que le problème se trouve au niveau du sommet de l'État. Donc, c'est le régime en place qui n'a pas une vision claire pour ce pays. Parce que nous voyons que c'est le même discours qu'on faisait à l'époque du président Joseph Kabila, qui se répète. On dit la RDC est un pays potentiellement riche. On doit diversifier l'économie. Nous allons faire la revanche du sol ou sous-sol. On voit que les mêmes discours continuent. Ce qui prouve à suffisance que le problème, c'est la tête et non la queue. Et s'il faut changer le gouvernement, moi je pense que il faut changer le premier ministre, car Madame Judith Suminwa a montré ses limites.
Alors, Joseph Nkoy, vous avez suivi les différentes analyses hein, autour de la table par rapport à cette question. Quelle est votre réaction et surtout, qu'est-ce que vous pensez de l'avis de Jean Mokwango qui nous a appelé depuis Bandundu?
Oui, excusez-moi, Madame Kelly. En fait, nous sommes en démocratie. On ne peut pas interdire à quiconque d'émettre un point de vue. Ça n'engage que son auteur. Et comme citoyen de ce pays, comme patriote de ce pays, nous ne pouvons que souhaiter de la chance aux animateurs des institutions de la République. Et parce que nous parlons du gouvernement Soumino 2, il y a lieu ici de dire que les dynamiques sont en train de changer et qu'il y a ici la prise de conscience de la première ministre et tous les Congolais d'esprit moyen. Il faut dire, Madame Kelly, si nous voulons que ce pays puisse avancer, on ne peut pas toujours parler à mal de ce pays, parler à mal du président de la République, parler à mal des institutions de la République. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on fait avancer les choses. Et j'ai comme l'impression que l'opposition qui est faite ici, c'est une opposition, excusez-moi de dire, de la haine. Une opposition républicaine, c'est une opposition qui formule des propositions pour que la gestion du pays soit améliorée. Ne serait pas une opposition de critique sans proposition. Avant de répondre à l'avis de l'auditeur, je reviens à mon frère de l'envoi, le secrétaire général, qui a dit qu'il y a un problème de légitimité. Non, dans notre pays actuellement, il n'y a pas un problème de légitimité. Nous avons des institutions qui ont été installées sur base de la Constitution, sur base des lois de la République. Il ne faut pas vouloir amener des choses qui ne correspondent pas à la réalité actuelle. Il ne faut pas amener cette histoire, ce débat de crise actuellement. C'est déjà dépassé. C'est déjà dépassé. On ne peut pas prétendre actuellement dire que les institutions sont illégitimes. En quoi elles sont légitimes? Bon, encore qu'il faut qu'on puisse nous expliquer quel est le contenu qu'on donne à ce mot légitimité, sinon ça deviendrait juste un mot que l'on évoque juste pour le besoin de la cause. Par rapport à l'auditeur de Bandout, j'ai pu comprendre son sentiment, ce qui est tout à fait normal. Mais moi ici, je donne de la chance à l'équipe Soumine Nadé parce que j'estime que le président de la République, au regard de toutes les évidences à présence, le président de la République a la responsabilité de pouvoir mettre dans cette équipe-là des personnes rigoureuses, des personnes responsables. Vous voyez ici, il faut dire, j'ai suivi mon frère qui est sur plateau, qui dit que Soumine n'a pas la liberté de travailler parce qu'il y a surmédiatisation du président de la République. Non. Le président de la République exerce ses fonctions en tant que président de la République et la première ministre exerce autant ses fonctions en tant que première ministre, il n'y a jamais eu d'inquiétement. Donc il faut faire la part de choses. Il y a ici un problème. C'est répondre aux défis sécuritaires parce qu'actuellement, c'est ça les défis majeurs auxquels notre pays est confronté. Et le président de la République en est conscient. Et je sais, je peux lui faire confiance, qu'il va mettre, dans ses gouvernements des gens qui sont capables de lui apporter quelque chose de plus dans son objectif d'offrir à ce pays une paix durable.
Merci.
Il faudrait pas qu'il y ait des considérations politiques ou quoi puisse primer. Il faut voir. Les critères compétences, évidemment, nous sommes en démocratie et le régime parlementaire que nous avons oblige que le gouvernement soit issu de la majorité parlementaire. Donc, on ne peut pas mettre de côté cette considération-là du poids politique. Même bien que poids politique, on peut toujours trouver dans les partis politiques, dans les regroupements politiques, les gens qui sont capables de relever les défis, d'accompagner véritablement le président de la République dans sa vision.
Merci Joseph Nkoy, on va se rendre cette fois-ci dans quelle province? L'auditeur est à Kinshasa, me signale-t-on. Donc on va prendre cet auditeur de Kinshasa.
Bonjour, c'est Monsieur Félix Bakker Mwananga à Kinshasa Gombe. À mon humble avis, sur les fonds, le gouvernement Soumou Nadu, tel qu'annoncé, semble vouloir répondre aux critiques du passé. Une équipe réduite, plus inclusive, opposition et société civile. Ce qui peut être théoriquement améliorer la gouvernance. Mais, dans la réalité congolaise, plusieurs citoyens restent susceptibles pour des raisons compréhensibles. Manque de résultats visibles du précédent gouvernement Soumou Nadu, crise persistante, chômage, insécurité dans l'Est, inflation, mauvaise gouvernance, promesses non tenues dans le passé, ce qui mine la confiance du peuple. Tout dépendra des actions concrètes menées dès les premiers mois. La publication du gouvernement ne doit pas être un simple geste politique, mais une occasion réelle de redresser la situation du pays. Les peuples attendent de ces gouvernements de résultats, pas de discours.
Rodrigo Ramazani, est-ce que vous êtes en ligne?
Je suis en ligne, madame.
Vous avez la parole.
Et malheureusement, ma toute première intervention a été perturbée à cause de la réseau. Connexion de là où je suis. Mais écoutez, moi je suis en train de suivre la majorité et je suis très étonné. Je crois que le patriotisme aujourd'hui dépend du bord dans lequel on se trouve. Lorsqu'on est patriote, on n'accepte pas que dans son pays, qu'il puisse avoir eu des élections qui se sont tenues pendant 7 jours. Avec des contestations alors flagrantes. Où on nous démontre par l'organe habilité à organiser les élections qu'il y avait les membres de la majorité qui détenaient des machines à voter et qui ont triché. Donc, nous sommes dans un pays où les élections, les membres du gouvernement ont triché, les députés nationaux ont triché.
Alors, vous l'avez dit dans votre...
Les sénateurs ont triché et on veut nous dire qu'il n'y a pas de crise de légitimité alors, que notre peuple se reconnaît à ces institutions.
Vous l'avez dit dans votre première intervention, Rodrigo Ramazani.
Non, je suis en train de recadrer, en fait, pour fixer l'opinion sur la crise institutionnelle qui existe. Il faut pas tourner le dos.
Oui, mais l'opposition a souvent plaidé pour un dialogue national, son nouveau gouvernement, même avec la participation de l'opposition, un gouvernement ouvert à l'opposition. Est-il suffisant pour répondre à cet appel?
C'est insuffisant, c'est insignifiant. Cela ne permettra pas de résoudre le problème. Il ne s'agit pas d'une opération de replaçage. Non, non. Il s'agit ici de traiter des causes profondes de la crise. Je dis que la crise, elle est multiforme. Je le dénommé dès l'entame de cette émission. Il faut qu'on arrive à parler de ce problème. Les Congolais doivent se retrouver pour dialoguer et discuter de crise, de causes profondes de la crise. Et le père de l'Église nous a prêté la main. Les CNCO nous ont prêté la main pour nous dire de venir autour d'une table pour parler de ce problème du pays. Maintenant, si la majorité, pour eux, la solution se limite à se placer et avoir quelques strapotins en vue de résoudre quelques problèmes personnels, nous n'allons pas résoudre le problème parce que le problème est plus profond que ça. D'où nous-mêmes l'envol, nous soutenons la démarche des pères de l'Église qui nous proposent ce dialogue inclusif. Il faut parler de ce problème en vue de le résoudre une fois pour toutes. Ce n'est pas une question de haute toi pour que je m'y mette. C'est une question où nous allons parler de problèmes du pays. Nous allons ensemble tirer les responsabilités des uns et des autres. Nous sommes dans un pays où personne n'est responsable. Le pays, M. Tshisekedi, après la remise et reprise, l'ensemble du territoire national était sous contrôle de l'administration congolaise. Et aujourd'hui, nous avons une partie du pays qui est occupée par des forces négatives. Et là, il n'y a pas de responsable. Il faut qu'on en parle autour de la table. Qui est responsable de cette situation? Nous nous réveillons le matin. Il y a le pacte de Sun City, la constitution, qui nous donne le voix pour revendiquer. Nous avons des compatriotes qui ont pris les armes et qui occupent une partie du territoire. Est-ce que pour ça, il n'est pas nécessaire qu'on se mette autour d'une table pour tirer des responsabilités? On détourne de l'argent, il n'y a pas de responsable.
Alors, pour vous,
il y a des violations de droits de l'homme, il n'y a pas de responsable.
Pour vous, Rodrigo Ramazani, la solution, ce n'est pas avoir...
Mais lorsque on le dit, nous...
Ce n'est pas oui, avoir... Madame Michele. Je disais, pour vous, la solution, ce n'est pas avoir un nouveau gouvernement, mais c'est d'abord organiser ce dialogue où les Congolais et les Congolaises vont se retrouver pour parler des crises qui secouent le pays.
Exactement, madame.
Merci.
Nous devons parler de ça, tirer des conclusions, trouver un consensus autour de ce problème et avoir un agenda clair en vue de résoudre définitivement cette crise. Nous n'allons pas continuer dans ce pays de crise en crise et que notre population demeure dans la misère.
Merci, Rodrigue. On va aller à Kananga, au Kasaï central, pour écouter ce dernier auditeur.
C'est Kaikai Kabasele Kalumba depuis la ville de Kananga, province de Kasaï Central. À mon humble avis, le problème n'est pas du gouvernement en tant qu'une institution de la République. c'est plutôt les problèmes des hommes éthiques qui doivent composer ces gouvernements, car sans volonté, on ne fera rien, même si on a toutes les ressources du monde. Le peuple n'a besoin que du changement dans tous les secteurs de la vie nationale, c'est-à-dire des actions concrètes et non des promesses fallacieuses. Sans hommes éthiques, le gouvernement Suminadé sera traité de tous les maux.
Christian Moleka, le problème c'est l'homme congolais. Selon
Monsieur Kai Kabasele n'a pas tort. Notre problème c'est pas l'absence de diplômes. Nous avons énormément des hommes qui ont suffisamment de QI. Je crois que notre problème c'est aussi l'intelligence émotionnelle, la capacité à avoir de l'empathie pour les citoyens. Et que quand vous n'avez pas de l'empathie, vous pouvez avoir toute l'intelligence nécessaire. S'il n'y a pas de l'empathie et l'intelligence émotionnelle, vous n'arrivez pas à répondre aux préoccupations. Ce qu'il propose, ce qu'il pose comme postulat est important. On a un problème de qualité d'homme. Est-ce que le critère ou la sélection permettra d'avoir des hommes d'éthique qui ont un respect du bien commun, des finances publiques, qui ne transforment pas l'argent de l'État en leur bien privé? Est-ce qu'on va sortir de la corruption? C'est un aspect du problème, la qualité d'homme, que ce soit dans la gouvernance de la majorité ou dans l'opposition. C'est un aspect du problème, mais le problème il est plus globalisant, parce que un gouvernement c'est d'abord un rapport de force au sein de la majorité, ensuite un choix stratégique d'ouverture ou de non-ouverture, et ensuite un contexte particulier. Nous sommes dans un contexte où il y a deux dynamiques pratiquement qui s'opposent, une dynamique qui veut le dialogue aujourd'hui, mais parce qu'aujourd'hui c'est bien plus favorable avec un président qui sort quand même de beaucoup de fragilités par rapport à la guerre, et une dynamique contraire qui probablement va aller vers le dialogue, mais qui veut reposer l'agenda en ayant une posture de, je dirais, de beaucoup plus de fermeté. Donc beaucoup estiment peut-être qu'aujourd'hui le président est beaucoup plus faible, et que négocier aujourd'hui, il négocierait dans des conditions de beaucoup plus de concessions, et qu'il faut attendre qu'il soit suffisamment fort en ayant la Doha, Washington, et avec cette position de force, il pourra mieux renégocier, donc mieux discuter. Donc c'est une gestion de temps. C'est une gestion d'orientation, parce qu'il ne faut pas oublier que tout dialogue nous lira à 2028. Un dialogue trop tôt ne prendra peut-être pas les enjeux de 2028. Un dialogue très tard pourra inscrire également et la 2028 une possibilité de transition. Donc il y a ces enjeux-là politiques qui tournent derrière le timing choisi pour le dialogue. Et un gouvernement aujourd'hui presque des transitions, parce qu'un soumis noir 2, c'est un gouvernement transitoire qui nous permettra peut-être de gagner 8 mois et à sortir d'un nouveau dialogue, un nouveau premier ministre et un gouvernement qui pourrait nous amener soit vers des élections, soit vers autre chose.
Alors, puisque vous avez la parole, je vais vous demander de conclure, Christian Moleka. Si on devait résumer en un seul mot l'enjeu majeur du prochain gouvernement, quel serait-il?
Je dirais sur le timing, sur le choix du timing, la gestion du temps, et chacun veut avoir le timing le plus fort. Pour le président, c'est un timing le plus fort, certainement post-Doha à Washington, où il reviendrait en force. Pour l'opposition, c'était peut-être un timing qui correspond à la période d'aujourd'hui, parce qu'on aurait un président qui ferait beaucoup plus de concessions qu'un président qui revient plus fort.
Merci. Pardon, Christian Moleka, Joseph Nkoy, en une phrase, est-ce que la formation de ce nouveau gouvernement est une réponse adéquate aux crises sociales, économiques et sécuritaires que traverse le pays? En une phrase.
Une seconde, madame, avant de répondre.
On est à la fin, nous sommes à la fin de l'émission.
Il n'y a pas de crise institutionnelle actuellement en République démocratique du Congo. Il ne faut pas vendre les mots comme ça. Il n'y a pas de crise institutionnelle. Le gouvernement fonctionne, l'Assemblée nationale, le Sénat fonctionne. Il n'y a pas de crise institutionnelle.
Vous êtes déjà revenu sur ça. Alors, vous répondez à ma question en une phrase.
Oui, je réponds, madame. Je dis ceci. Il y a nécessité, selon le président de la République, de redynamiser l'équipe gouvernementale. Et il va y procéder. Le souhait de tout Congolais, c'est que nous puissions voir cette équipe travailler durement en toute responsabilité dans la rigueur pour répondre aux attentes de la population, répondre aux défis actuels, notamment les défis sécuritaires. Et tous les compatriotes doivent accompagner ces gouvernements en toute objectivité, en toute responsabilité. C'est peut-être l'occasion pour moi d'appeler à l'attention de Monsieur le Président de la République de pouvoir développer davantage les sens de rigueur, les sens de sanctions lorsqu'il y a une faute. Et donc, je pense que c'est dans cet ensemble de choses que nous pouvons espérer à un changement plus éloquent.
Merci. Rodrigue Ramazani, votre conclusion.
Ok, merci beaucoup Madame. Je tiens à souligner qu'il existe bel et bien une crise de légitimité et une crise de confiance entre les institutions et le peuple congolais de suite de coups d'état électoral et de tricheries et de fraude massive des élections de 2023. Maintenant, pour conclure mes propos, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, nous devons tous regarder l'intérêt de notre population. La situation, elle est dramatique. Le pays, l'unité nationale est fragmentée. La réunification du pays nous semble être inquiétante. Nous ne pouvons pas, au nom de bord politique, penser que un remplacement de membres du gouvernement ou de visages dans le gouvernement sera la solution à la crise multiforme que nous vivons aujourd'hui. Au nom de la responsabilité, nous l'envolons. Et ensemble avec le président national de l'ICE Sanga, nous insistons, nous demandons au pouvoir Tshisekedi d'arrêter de jouer à la montre parce que nous parlons de vie des Congolais et de l'avenir de nos enfants.
Merci.
Il est temps aujourd'hui que les Congolais se retrouvent autour d'une table de manière inclusive pour parler de nos problèmes en vue de résoudre ces problèmes une fois pour toutes de manière définitive. Seul un dialogue inclusif entre Congolais permettra de résoudre le problème. Pas de discussion entre deux parties.
Merci, Rodrigue.
Pas de compromis, pas de tournure inutile qui nous fait perdre du temps et qui remet en cause l'unification du pays.
Merci, Rodrigue Ramazani, on vous a suivi. Maître Serge Lizambe Bosembo, qui est président national du groupe Lizambe pour la mobilisation culturelle, soutient la mise en place d'un gouvernement inclusif qui intègre des opposants ayant une vision constructive et républicaine et non des opportunistes mus par des intérêts égoïstes. Il demande que la compétence et les biens et le bilan doivent être les seuls critères des reconductions des ministres en fonction. La loyauté sans résultat ne peut plus être tolérée dans un contexte où notre peuple attend des réformes concrètes et visibles. Il appelle le chef de l'État à ne pas faire du nombre des députés par parti politique un critère prépondérant des sélections. Ce facteur, selon lui, bien que politique, ne reflète pas toujours la véritable espérance populaire, souvent biaisée par des systèmes électoraux imparfaits. Dialogue congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Enoch Katumbi qui m'a aidé à préparer ce magazine. Alain Goy et Billy Betou étaient à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Couté. Restez branchés sur Radio Capine.